Même avec la collaboration pleine et entière de la présidente, s'assurer le nombre de voix nécessaires à la Chambre n'était pas une mince affaire. Non seulement il faudrait faire des pieds et des mains pour obtenir le soutien des représentants démocrates les plus à gauche, qui s'étranglaient de rage à l'idée de voter en faveur d'un projet de loi conçu pour flatter la sensibilité de Max Baucus et de Joe Lieberman, mais la victoire de Scott Brown dans le Massachusetts, moins d'un an avant les élections de mi-mandat, avait fortement échaudé les démocrates modérés, qui allaient bientôt devoir livrer bataille dans les urnes. Il nous fallait trouver un moyen de couper court au catastrophisme ambiant et de donner à Nancy le temps nécessaire pour rallier les soutiens. Or, ce moyen, ce sont nos adversaires qui nous l'ont offert sur un plateau. Quelques mois plus tôt, le groupe des Républicains à la Chambre des représentants m'avait invité à participer à une petite séance de questions-réponses lors de leur séminaire annuel prévu le 29 janvier. Comme nous nous doutions que le sujet de la réforme du système de santé y serait abordé, nous leur avons suggéré à la dernière minute d'autoriser la presse à couvrir les débats. Est-ce parce qu'ils craignaient les réactions de mécontentement de la part des journalistes qui ne seraient pas conviés, ou parce que la victoire de Scott Brown lui avait donné un regain d'audace? Toujours est-il que John Boehner a accepté. Il n'aurait pas dû. Dans une salle de conférence banale d'un hôtel de Baltimore, sous la houlette du président du groupe républicain à la Chambre, Mike Pence, et le regard des caméras des chaînes d'information qui ne perdaient pas une miette du spectacle, j'ai passé 1h20 à répondre aux questions des représentants républicains qui portaient essentiellement sur la réforme. Tout le monde a pu dès lors constater ce que tous ceux d'entre nous qui travaillons depuis le début sur le sujet savions déjà. L'immense majorité des républicains n'avait pour ainsi dire pas la moindre idée de ce qu'il y avait dans ce projet auquel ils s'opposaient de manière si virulente, n'étaient pas très sûrs de la teneur exacte de leur propre contre-proposition, à supposer d'ailleurs qu'ils en aient eu, et manquaient cruellement d'arguments pour en débattre en dehors de la bulle hermétiquement close des médias conservateurs. De retour à la Maison-Blanche, j'ai suggéré que nous profitions de notre ascendant en invitant les Four Tops et un groupe bipartite de figures de proue du Congrès à la résidence de Blair House pour une journée de discussion autour de la réforme. Une fois encore, nous avons fait en sorte que les débats soient retransmis en direct sur C-SPAN, et une fois encore, le format adopté donnait aux républicains toute latitude pour avancer tous les arguments et poser toutes les questions qu'ils voulaient. Ayant été pris de court auparavant, cette fois, ils sont venus préparer. Le whip républicain à la Chambre des représentants, Eric Cantor, est arrivé avec un exemplaire du texte ratifié par la Chambre, lâchant sur la table l'épais volume en un geste symbolique censé démontrer que ces quelques 2700 pages illustraient sans conteste une volonté de mainmise du gouvernement fédéral sur le domaine de la santé. Boehner a déclaré que notre projet était une dangereuse expérience et que nous devrions revoir notre copie. John McCain s'est lancé dans une longue diatribe dénonçant nos petits arrangements en sous-main, au point que je l'ai interrompu à un moment pour lui rappeler que la campagne était terminée. Mais chaque fois que nous abordions les vraies questions, quand j'ai demandé par exemple au chef de file du GOP ce qu'il proposait précisément pour favoriser une diminution du coût des soins médicaux, protéger les patients ayant des antécédents et fournir une couverture maladie aux 30 millions d'Américains qui n'avaient aucun autre moyen de souscrire une assurance, leur réponse était aussi inconsistante que l'avait été celle de Chuck Grassley lors de sa visite dans le bureau ovale quelques mois plus tôt. Je suis à peu près certain que les téléspectateurs cette semaine-là ont été plus nombreux à regarder le championnat de bowling qu'à suivre nos discussions ne serait-ce que pendant 5 minutes. Et à l'évidence, rien de ce que j'avais pu dire au cours de ces 2 réunions n'aurait la moindre incidence sur la position des républicains. La seule leçon qu'ils en tireraient éventuellement, c'est que la prochaine fois que je viendrai m'adresser à leur groupe parlementaire, les caméras ne seraient pas les bienvenues. Mais ce qui importait, c'était que ces 2 rencontres insufflent une nouvelle énergie aux démocrates de la Chambre. Qu'elle leur rappelle que notre projet de réforme était noble et juste, et que, au lieu de focaliser leur attention sur les défauts du texte ratifié par le Sénat, ils avaient toutes les raisons de garder courage en songeant aux millions d'Américains que cette réforme allait aider. Début mars, nous avions eu officiellement confirmation que les règles du Sénat nous permettaient d'amender le texte ratifié par les sénateurs grâce à la procédure du rapprochement budgétaire. Nous en avons profité pour augmenter les subventions afin d'aider un plus grand nombre de personnes, réduire la taxe Cadillac pour apaiser les craintes des syndicats et nous débarrasser de la double épine dans le pied que constituait la ristourne des effeuilleurs de maïs et l'achat de la Louisiane. L'équipe de Valérie, chargée de la participation publique, a accompli un travail formidable, s'assurant le soutien de groupes tels que l'Association des médecins de famille, l'Association médicale, l'Association des infirmières et l'Association contre les maladies cardiaques, tandis qu'un réseau de bénévoles et de groupes d'action citoyens se démenait sans compter pour sensibiliser le public et mettre la pression sur le Congrès. Anthem, l'une des plus importantes compagnies d'assurance américaines, a annoncé dans le même temps une hausse de 39% de ses cotisations, rappelant ainsi aux gens tout ce qui ne leur plaisait pas dans le système actuel, ce qui arrangeait bien nos affaires. Et quand la conférence épiscopale des États-Unis a déclaré qu'elle ne pouvait en aucun cas apporter son soutien à la réforme, au prétexte que les termes du projet de loi prohibant l'utilisation des subventions fédérales pour des procédures d'avortement n'étaient pas assez explicites, nous avons trouvé une alliée inattendue en la personne de sœur Carol Keehan, une religieuse au tempérament discret et à l'entrain inébranlable qui dirigeait le réseau des hôpitaux catholiques du pays. Non seulement cette fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, du haut de ses 66 ans, s'est inscrite en faux contre l'ordre épiscopal, affirmant que cette réforme était vitale à la mission d'assistance aux malades dont s'acquittait son organisation, mais sa prise de position a en outre incité les dirigeantes d'un certain nombre d'ordres et d'organisations catholiques féminins, représentant pas moins de 50 000 religieuses américaines, à signer une pétition de soutien à notre projet de loi. « J'adore les nonnes », ai-je dit à Phil et à Nancy Ann. Pourtant, malgré tous ces efforts, nos calculs indiquaient qu'il nous manquait encore au moins 10 voix pour être assurés de remporter le vote. L'opinion publique demeurait fortement divisée. La presse n'avait plus grand-chose à se mettre sous la dent. Nous étions à court de grandes manœuvres ou d'astuces de procédure capables de faciliter le processus politique. Le succès ou l'échec, tout dépendait entièrement désormais du choix que ferait la trentaine de démocrates de la Chambre représentant des circonscriptions susceptibles de basculer et à qui l'on disait que voter en faveur de l'Affordable Care Act risquait de leur coûter leur siège. Je passais une bonne partie de mes journées à discuter avec chacun d'entre eux, parfois dans le bureau ovale, plus souvent au téléphone. Certains ne se souciaient que des aspects politiques, leur attention accaparée par les sondages dans leur circonscription, les lettres et les coups de fil de leurs électeurs. Je m'efforçais de leur faire part de mon analyse avec la plus grande honnêteté. La réforme finirait par engranger plus de soutien une fois que la loi serait votée, mais ça n'arriverait peut-être pas avant les élections de mi-mandat. Un rejet du projet de loi risquait davantage d'entraîner une défection dans les rangs des électeurs démocrates que d'attirer les républicains et les indépendants. Et quoi qu'ils fassent, leur destin dans 6 mois dépendrait sans doute principalement de la situation économique et de mon propre positionnement politique. Certains recherchaient le soutien de la Maison-Blanche sur telle ou telle initiative, sans rapport avec la réforme. Je les renvoyais vers Ram ou Pete Rouse pour voir avec eux si nous pouvions faire quelque chose. Mais la plupart de ces conversations ne portaient pas sur de quelconque tractation. À leur manière détournée, ce que ces représentants voulaient vraiment, c'était savoir à quoi s'en tenir, savoir clairement qui ils étaient et ce que leur conscience exigeait d'eux. Parfois, je me contentais de les écouter tandis qu'ils pesaient à voix haute le pour et le contre. Souvent, nous comparions nos expériences, évoquions le parcours qui nous avait incité à embrasser la carrière politique, l'excitation fébrile de la toute première campagne, tous les grands projets que nous avions espéré accomplir, tous les sacrifices que nos familles et nous-mêmes avions consentis pour en arriver là, et tous les gens qui nous avaient aidés en cours de route. « Eh bien voilà, » finissais-je par leur dire. « Nous y sommes. Voilà pourquoi nous avons fait tout cela. Pour avoir cette rare opportunité, réservée à quelques privilégiés, qui consiste à pouvoir dévier le cours de l'histoire vers un meilleur horizon. » Et le plus étonnant, c'est que bien souvent, il n'en fallait pas plus. Certains vétérans du circuit politique décidaient de monter au créneau en dépit des oppositions farouches dans leur circonscription, des gens comme Barron Hill dans le sud de l'Indiana, Earl Pomeroy dans le Dakota du Nord, ou encore Bart Stupak, un catholique fervent de la péninsule nord du Michigan, qui avait œuvré à mes côtés pour peaufiner les dispositions du texte relatives au financement des procédures d'avortement, afin de pouvoir voter en toute conscience en faveur du projet de loi. Il en est allé de même pour certains néophytes de l'arène politique, comme Betsy Marquet dans le Colorado, ou encore John Boccieri dans l'Ohio et Patrick Murphy en Pennsylvanie, deux anciens soldats qui avaient servi en Irak. Tous considérés comme des étoiles montantes du parti. C'était d'ailleurs souvent ceux qui avaient le plus à perdre qui se révélaient les moins difficiles à convaincre. Tom Perriello, 35 ans, ancien avocat des droits fondamentaux entré au Congrès après avoir arraché la victoire dans une circonscription traditionnellement acquise aux Républicains, qui couvrait une large zone de la Virginie, parlait pour beaucoup d'entre eux lorsqu'il m'a expliqué pourquoi il avait décidé de voter en faveur de la réforme. « Il y a des choses plus importantes, m'a-t-il dit, que de se faire réélire. Il n'est pas difficile de trouver des gens qui haïssent le Congrès, des électeurs persuadés que le Capitole grouille d'hypocrites et de lâches, que la plupart de leurs élus sont à la solde des groupes d'intérêts et des gros donateurs, et qui ne sont motivés que par l'appétit du pouvoir. Quand j'entends ce genre de critiques, en général je hoche la tête et je reconnais qu'il y a en effet des hommes et des femmes politiques qui correspondent à ces stéréotypes. Je reconnais que le pugilat auquel on assiste quotidiennement dans l'hémicycle du Sénat ou de la Chambre des représentants a de quoi démoraliser les âmes les plus combatives. Mais je répète aussi à ces gens les propos de Tom Perriello à la veille du vote sur la réforme du système de santé. Je leur parle de ce qu'ils ont accompli, lui et beaucoup d'autres, alors qu'ils venaient à peine d'être élus. Combien parmi nous sont soumis à une telle épreuve, sommés de risquer la carrière dont ils ont si longtemps rêvé au nom du bien commun? On trouve aussi ce genre de personnes à Washington. C'est cela aussi, la politique. Le vote final sur le projet de réforme du système de santé a eu lieu le 21 mars 2010, plus d'un an après ce premier sommet à la Maison-Blanche où Ted Kennedy avait fait une apparition surprise. Tout le monde était à cran dans l'aile ouest. Selon le dernier décompte informel de Phil et de Nancy, nous étions en mesure de franchir la barre, mais de justesse. Nous savions qu'il était toujours possible qu'un ou deux représentants changent d'avis au dernier moment. Or, nous avions très peu de voix en réserve, pour ne pas dire aucune. J'avais un autre motif d'inquiétude, auquel je m'étais interdit de trop réfléchir, mais qui n'avait pas quitté mes pensées depuis le début. Nous avions initié, défendu et négocié, au prix d'innombrables tracasseries, une loi qui allait affecter la vie de dizaines de millions d'Américains. L'Affordable Care Act était complexe, exhaustif, politiquement clivant, lourd de conséquences et certainement imparfait. Et à présent, il allait falloir le mettre en pratique. En fin d'après-midi, après avoir passé quelques derniers coups de fil avec Nancy Ann aux députés qui s'apprêtaient à aller voter, je me suis levé et je suis allé me poster à la fenêtre, devant la pelouse sud. Cette loi a intérêt à marcher, lui ai-je dit. Parce qu'à partir de demain, le système de santé américain dépend entièrement de nous. J'ai décidé de ne pas écouter les longs discours préliminaires à la Chambre avant le vote, attendant que celui-ci ait démarré vers 19h30, pour rejoindre le vice-président et le reste de l'équipe dans la salle Roosevelt. Un par un, les votes défilaient, les membres de la Chambre des représentants appuyant chacun leur tour sur le bouton « Yay » ou « Nay » de leur panneau électronique, le décompte des voix s'inscrivant en temps réel sur l'écran de la télé. À mesure que le nombre de « oui » progressait lentement, j'entendais Messina et quelques autres murmurer tout bas « Allez, allez !» Enfin, la barre des 216 voix « pour » a été franchie. Une de plus que ce qu'il nous fallait. Au bout du compte, notre projet de loi serait voté par 7 voix d'écart. Tout le monde dans la pièce s'est mis à hurler de joie, à se serrer dans les bras et à se taper dans la main comme s'ils venaient de voir leur équipe de baseball gagner le match à l'arraché. Joe m'a saisi par les épaules, le visage fendu d'un sourire encore plus grand qu'à l'accoutumée. « T'as réussi, mon vieux !» s'est-il exclamé. Ram et moi nous sommes donné l'accolade. Il était venu à la Maison-Blanche ce soir-là avec son fils de 13 ans, Zach, pour regarder le vote. Je me suis penché vers ce dernier et je lui ai dit que grâce à son père, des millions de personnes seraient enfin couvertes par une assurance si elles tombaient malades. Le gamin rayonnait. De retour dans le bureau ovale, j'ai appelé Nancy Pelosi et Harry Reid pour les féliciter. Puis, en raccrochant, j'ai aperçu Axel Rod debout sur le seuil de la porte. Il avait les yeux un peu rouges. Il m'a dit qu'il avait eu besoin de s'isoler un moment dans son bureau après le vote, qui avait fait ressurgir en lui le souvenir des épreuves que sa femme Suzanne et lui avaient traversées quand leur fille, Lorraine, avait connu ses premières crises d'épilepsie. « Merci d'avoir tenu bon », m'a dit Axe d'une voix étranglée. Je lui ai passé un bras autour de l'épaule, gagné moi aussi par l'émotion. « Ce qu'on vient de faire, lui ai-je dit, là, maintenant, c'est pour ça qu'on fait ce boulot. » J'avais invité tous ceux qui avaient travaillé sur le projet de réforme à venir fêter la victoire à la résidence, une centaine de personnes en tout. C'était les vacances de printemps pour Sacha et Malia, et Michel les avait emmenés passer quelques jours à New York. J'étais donc seul. Comme il faisait doux, nous avons pu profiter du balcon Truman, d'où nous voyions scintiller au loin les lumières du Washington Monument et du mémorial de Jefferson. Et je me suis même permis une petite entorse à la règle sacro-sainte, pas d'alcool en semaine. Un martini à la main, j'ai fait le tour des convives, serré dans mes bras et remercié Phil, Nancy Ann, Jeanne et Kathleen pour tout le travail qu'ils avaient accompli. J'ai serré la main à quantité de jeunes collaborateurs que je ne connaissais pas pour la plupart et qui devaient sans doute éprouver une certaine exaltation à l'idée de se trouver là ce soir. Je savais qu'ils avaient tous œuvré d'arrache-pied dans l'ombre à compiler des chiffres, préparer des ébauches de textes, rédiger des communiqués de presse et répondre à toutes sortes de requêtes émanant du Congrès, et je tenais à ce qu'ils sachent à quel point leur travail avait été décisif. Cette fête me touchait de manière toute particulière. Celle de Grand Park, après l'élection présidentielle, avait été extraordinaire, mais nous n'avions alors célébré qu'une promesse, qu'il allait nous falloir tenir. Cette soirée était encore plus importante à mes yeux. Nous fêtions une promesse tenue. Une fois tout le monde rentré chez soi, bien après minuit, je me suis dirigé vers la salle des traités. Beau était couché par terre, roulé en boule. Il avait passé une bonne partie de la soirée sur le balcon, au milieu de la foule, slalomant entre les jambes de mes invités, à l'affût d'une caresse ou d'un petit four à chiper. À présent, il avait l'air de se laisser aller à une douce fatigue, prêt à s'endormir. Je me suis baissé pour le gratouiller derrière les oreilles. J'ai pensé à Ted Kennedy, et j'ai pensé à ma mère. La journée avait été belle.